comment j'ai abouti ici.
On vient d'entendre Dumas qui nous chantait « À l'est d'Éden ».
Actualité culturelle, Stéphane Audran n'est plus. Elle était la muse de Claude Chabrol, avec qui elle a partagé 17 années de vie intime et une vingtaine de films, des Cousins 1959 à Betty 1992, en passant par Le Boucher 1970, Violette Nozière 1978. C'était Isabelle Huppert qui incarnait Violette Nozière, mais Stéphane Audran avait un rôle dans ce film. Et bien d'autres. Stéphane Audran, morte hier à l'âge de 85 ans, s'est aussi distinguée dans de nombreuses œuvres réalisées par d'autres grands cinéastes, notamment Le charme discret de la bourgeoisie de Louis Buñuel en 1972, Coup de torchon Bertrand Tavernier en 1981, sans oublier Le festin de Babette en 1987. Dans ce film de Gabriel Axel, lauréat de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, l'actrice interprétait une cuisinière française d'exception qui a pu faire valoir ses talents dans un petit village danois. Stéphane Audran avait passablement réduit ses activités au cours des dernières années. Son dernier rôle remonte à La fille de Monaco, un film d'Anne Fontaine tourné il y a 10 ans. Sonia Benezra se voit confier une nouvelle émission de variété musicale intitulée « Tout le monde aime » à TVA. Il s'agit d'un grand retour à la télé pour l'animatrice, dont la dernière présence régulière remonte à 2012 avec « Benezra reçoit » à Musimax. « Tout le monde aime », qui se déclinera sous forme d'émission spéciale, lui permettra de rencontrer nos plus grandes vedettes de la chanson. Lara Fabian, Rock Voisine, Éric Lapointe, Michel Louvain et Ariane Moffat participeront à la première saison. Chaque émission construite avec la complicité de l'invité remontera le fil des événements qui ont marqué sa vie à travers ses grandes chansons. TVA n'a pas précisé de date de diffusion ni de case horaire. Expo-vente des trésors de Gilles Carle. Muse et compagne de Gilles Carle pendant 27 ans, Chloé Sainte-Marie a décidé d'exposer et de vendre la plus grande partie des œuvres picturales du cinéaste mort en 2009. Quelques 450 dessins et peintures seront présentés à l'Arsenal à partir de samedi et jusqu'au 13 avril. Si l'œuvre cinématographique de Gilles Carle a marqué le cinéma québécois, on a peut-être un peu oublié que le réalisateur des Ploufs et de la Postière a étudié aux Beaux-Arts et à l'École des arts graphiques de Montréal. Alfred Pellan a même été son professeur. On n'est donc pas surpris de constater combien il aura été doué avec un crayon, un feutre ou un pinceau à la main. Gilles Carle a dessiné toute sa vie, s'inspirant de ses dessins pour ses scénarios. L'expo organisée à l'Arsenal comprend plus de 450 œuvres picturales créées entre 1977 et 2008. Des caricatures, par exemple, d'Einstein, de Marie Laberge, de Victor Lévy-Beaulieu ou d'Hubert Reeves, des tableaux, ici le style Picasso, là l'influence de Klee ou de Marcel Barbeau, des portraits de sa muse, Marie-Aline Joyal, qu'il renomma Chloé Sainte-Marie, et beaucoup de dessins érotiques. Une partie des dessins de Gilles Carle a brûlé lors d'un incendie et l'artiste en a jeté un grand nombre à la poubelle. Comme tous les artistes qui doutent, indique Chloé Sainte-Marie. Mais j'en ai récupéré beaucoup. Aujourd'hui, mon devoir est de les protéger. L'artiste aurait pu faire don de ses œuvres à un musée, mais elle dit ne pas avoir les moyens financiers de le faire. Elle veut poursuivre sa carrière et continuer à se consacrer à la cause des aidants naturels qu'elle défend depuis qu'elle s'est occupée pendant 17 ans du cinéaste atteint de la maladie de Parkinson. « Je réalise que j'ai besoin d'un salaire comme tout le monde », dit-elle. Dans l'absolu, Chloé Sainte-Marie aimerait vendre la totalité des œuvres picturales à un collectionneur ou à une institution. Elle va contacter plusieurs personnes à cette fin. « Ces œuvres sont mon héritage, mais aussi l'héritage des Québécois », dit-elle. C'était le journal intime de Gilles. Il parlait de nous, de moi, tous les jours avec ses dessins. « Je l'aimais à la folie, Gilles Carle. Quand tu te lèves et que tu vois un de ses dessins sur ta table de chevet, comment peux-tu quitter un homme comme ça, qui te réinvente une vie? Je n'étais pas capable de le laisser partir, dit Chloé Sainte-Marie. On trouvera donc à l'Arsenal des œuvres très inspirées, voire émouvantes en ce qui a trait aux dernières que Gilles Carle a créées. Elles se vendront entre 1 000 et 35 000 prix du même ordre que celui des créations acquises dans le passé par l'Auto-Québec, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et les Caisses populaires des Jardins. L'expo-vente sera placée sous le parrainage de Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil, collectionneur et grand ami de Gilles Carle. « Cette exposition permet au public d'avoir accès au trésor de Gilles Carle », dit M. Lamarre. « J'invite les collectionneurs et les amateurs d'art à découvrir les œuvres picturales de ce légendaire cinéaste. » L'historien d'art François-Marc Gagnon fait également l'éloge des œuvres de Gilles Carle dans un texte qui accompagne le catalogue d'exposition. L'absolu manque de prétention de cette immense production est remarquable, dit M. Gagnon. Elle s'est située en marge du grand art et a tenu à y rester, comme si Gilles Carle avait voulu faire à l'envers la démarche de l'art moderne. Non pas s'inspirer du low art pour en faire du high art, mais s'installer à demeure loin du high art. Rester près de la source quand la communication l'emporte encore sur la création. C'est la raison pour laquelle on aura toujours du plaisir à revenir à ses dessins et tableaux. Gilles Carle, partage et héritage du 31 mars au 13 avril, c'est à l'Arsenal, situé au 2020 rue William à Montréal. Catherine Leduc, dont la voix douce s'est fait connaître avec Tricot Machine, présentera pour la première fois à Montréal les chansons de son album intitulé « Un bras de distance avec le soleil » où la liberté de création a pris le dessus sur tout. À voir demain à la Casa del Popolo. Et pour terminer, une nouvelle dans le Journal de Montréal. C'est insultant. Michel Côté déplore la disparition du magazine francophone Cinéplex. Le milieu du cinéma québécois a accueilli avec colère et inquiétude la décision du réseau de cinéma Cinéplex de mettre fin à la publication de la version francophone de son magazine, tout en continuant à publier la version anglophone. C'est un peu insultant de se faire dire « on coupe, mais on coupe juste le français », souligne l'acteur Michel Côté. Comme plusieurs de ses pairs, Michel Côté a été déçu et choqué d'apprendre la semaine dernière dans un article du journal que Cinéplex cessait la publication de son magazine francophone. La direction torontoise de Cinéplex, le plus important réseau de salles de cinéma au pays, a annoncé cette décision dans un courriel interne envoyé jeudi aux employés de la publication et dans lequel elle expliquait en quelques phrases qu'il n'était plus financièrement prudent de publier le magazine francophone. Pour couronner le tout, le message était rédigé seulement en anglais. « On gruge petit à petit sur notre culture francophone », affirme Michel Côté.
Marcher pour me rendre chez moi, sans trop savoir où c'était. J'ai trop marché, tout oublié, même où j'habitais, surtout d'où je venais. J'ai marché entre les gratte-ciels, des forêts sans arc-en-ciel. Je sais plus où je suis passé, tout ce chemin, je l'ai peut-être rêvé. L'hiver arrivera, peut-être je marcherai encore. Durant 33 étés, l'année de me regarder les pieds, ceux des passants qui m'ont bousculé. J'ai pas levé la tête pour les insulter. Il va marche depuis longtemps. perdu le nord. On dirait que ma boussole a perdu le nord. On dirait que ma boussole a perdu le nord.
L'artiste s'appelle L'Arche et on a entendu La Marche.
La chronique de Lysiane Gagnon est intitulée « Pourquoi tout ce mépris? » Le torrent de quolibets méprisants dont est victime Martine Ouellette depuis des semaines est quelque chose d'absolument inédit. En tout cas, je n'ai jamais vu pareil acharnement contre un politicien, encore moins un politicien dont le seul crime aurait été de tenir mordicus à ses convictions. Je dis « politicien », or il s'agit d'une politicienne. Serait-ce l'explication? Entendons-nous. Il n'y aurait rien d'anormal à critiquer la chef du Bloc québécois qui se trouve dans la position embarrassante de diriger un parti dont 70 % des députés ont démissionné pour exiger son départ. La critique soit, mais cette unanimité dans le dénigrement, ces injonctions autoritaires qui la somment de partir, même l'ancien chef du Bloc, Gilles Duceppe, est sorti de son devoir de réserve. On lui aurait reproché d'agir comme la pire des belles-mères s'il ne s'était agi de Mme Ouellette, avec laquelle il semble qu'on puisse tout se permettre. Quel autre politicien a été traité de cette façon? Même Gaétan Barrette, attaqué de toutes parts, est respecté en tant qu'être humain, alors que Mme Ouellette est désormais réduite à une caricature déshumanisée offerte aux railleries des badauds. Je ne parle pas des médias sociaux qui charrient n'importe quoi, mais des médias respectables, dont on dirait qu'ils se sont tous donné le mot pour présenter Martine Ouellette comme un personnage infréquentable, ridicule ou toxique. Daniel Lessard de Radio-Canada a fait entendre une rare voix discordante. Il doute qu'un homme serait traité de la même manière. Quoique n'étant pas du genre à voir du sexisme partout, je suis assez d'accord avec lui. L'autre phénomène bizarre, c'est l'attention exagérée que portent les médias aux aléas du Bloc québécois. Les derniers sursauts de vie de cette formation, qui a pourtant déjà fait la preuve de son inutilité, ne cessent, semble-t-il, de fasciner nos confrères, ceux du Devoir particulièrement, qui a consacré je ne sais combien de manchettes et de textes longs et détaillés. Durant les trois derniers mois, le Bloc a été mentionné 16 173 fois dans les médias francophones québécois. Point d'exclamation. On n'a jamais autant parlé du Bloc que depuis qu'il est en train de s'auto-euthanasier. Qu'est-ce qui motive cet intérêt obsessionnel que ne justifie aucunement cette querelle interne dans un parti déjà exsangue et ce triste spectacle d'une poignée de députés affolés à la perspective de perdre leur siège aux prochaines élections? Comment se fait-il que dans un Québec, où la souveraineté reste une sorte de beau rêve pour bien des gens, on en soit venu à traiter de folle la dernière résistante qui porte encore haut les couleurs de la souveraineté? Étrange paradoxe que la psychiatrie sociale devrait creuser. Dans un texte percutant et inspiré publié mardi dans Le Devoir, le musicien et comédien Sébastien Ricard explique cette inquiétante unanimité contre Martine Ouellette par la crise permanente et sourde des institutions politiques et par les compromissions auxquelles se prêtent les souverainistes. Effectivement, Martine Ouellette détonne singulièrement dans un paysage où les souverainistes ont tous, sans exception, peureusement poussé leur option sous le tapis. Mais elle ne fait que s'inscrire dans la longue lignée de l'indépendantisme orthodoxe tel qu'il a été incarné par les pionniers du mouvement et par Jacques Parizeau. Lui aussi voulait axer toute l'action du Parti québécois sur la souveraineté, au détriment de la stratégie du « bon gouvernement », ou, dans le cas du Bloc, de la défense des intérêts du Québec. Une fois premier ministre, M. Parizeau a dû mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est cette même stratégie volontariste qui est celle de Mme Ouellette. Elle place le prosélytisme au-dessus de la rentabilité électorale, ce qui est une démarche militante tout à fait honorable et parfaitement normale dans un mouvement qui veut renverser l'ordre établi. On peut trouver sa démarche irréaliste ou mal accordée à notre époque, mais elle n'a rien de honteux ni de ridicule. De la même façon, le référendum lancé par la chef du Bloc n'a rien de grotesque quand on connaît l'historique souverainiste. Sa question est longue et tortueuse. Le PQ a fabriqué de pires questions au référendum de 1980 et de 1995. On reproche à Mme Ouellet de conditionner sa victoire référendaire à une majorité de 50 % plus une voix. Mais c'était sur cette majorité simple que le PQ comptait démanteler le Canada, avec l'approbation des leaders fédéralistes de l'époque. On comprend la panique qui s'est emparée des députés bloquistes. L'orientation de leur nouvelle chef risque de les faire battre aux prochaines élections, compte tenu de la désaffection populaire envers la souveraineté. Envoler le juteux salaire de député fédéral. Envoler les rêves de retraite dorée. Point de suspension. Mieux vaut se contenter de promettre, comme Gilles Duceppe l'a fait pendant des années, de travailler pour, entre guillemets, les intérêts du Québec, plutôt que pour l'indépendance, même s'il s'agissait d'une pure fiction. Les intérêts du Québec seront toujours mal servis par un parti d'opposition perpétuel qui parasite le Parlement du pays, dont il veut se séparer. C'est donc Lysiane Gagnon dans la presse d'aujourd'hui, section débat, chronique intitulée « Pourquoi tout ce mépris? » Biodôme de Montréal, les animaux déménagent le temps d'une remise à neuf. C'est dans la presse, mais on en parle aussi dans le Devoir d'aujourd'hui. Une opération de haute voltige se prépare au biodôme pour protéger la flore et les animaux durant des travaux ambitieux qui forceront sa fermeture durant plus d'un an, soit jusqu'à l'automne 2019. Et le congé de Pâques marquera la dernière chance de le visiter avant la grande opération de remise à neuf. Empereur, gorfou sauteux, petits pingouins, lynx, paresseux, castors, même les oiseaux exotiques et des poissons s'apprêtent à être relocalisés pour mieux revenir dans un biodôme à l'architecture audacieuse, écologique et novatrice, a annoncé le directeur d'Espace pour la vie, Charles-Mathieu Brunel. Les opérations commenceront la semaine prochaine. Certains partiront en avion, d'autres par la route. On promet à leur retour de nouveaux points de vue en hauteur sur les écosystèmes, des habitats renouvelés et mieux adaptés pour les animaux. Quand ils reviendront, il y aura de la neige tombant du ciel pour eux. Les manchots s'installeront de part et d'autre d'un mur de glace qui sera érigé pour séparer l'écosystème des îles subantarctiques où vivent les manchots de celui des côtes du Labrador où vivent les pingouins. Ainsi, les visiteurs pourront vraiment ressentir le froid du Labrador. D'ici là, a expliqué le directeur intérimaire du biodôme Yves Paré, les cinq empereurs déménageront au zoo de Calgary. Certains d'entre eux sont vieux. Ils resteront possiblement là-bas. On verra si un échange avec le zoo est possible, a-t-il dit. Quant aux autres animaux, certains resteront, d'autres iront également à Calgary et d'autres prendront la décision du zoo de Green Bay ou des États-Unis. Nous sommes presque une agence de voyage. Ceux qui ont besoin de se baigner se baigneront, ceux qui ont besoin de voler voleront et les paresseux pourront paresser. On ne veut cependant pas dévoiler tous les détails afin d'éviter une sorte de chasse aux Pokémon de nos animaux. Mais tout a été prévu, même l'entraînement pour entrer dans les boîtes de transport, assuré le directeur. 2,2 millions, c'est le nombre de visiteurs que le nouveau biodôme pourrait attirer chaque année selon les prévisions. Les travaux prévoient aussi le démantèlement du tunnel bas, en béton, conduisant de l'habitat des lynx à la hutte des castors. La nouvelle portion sous-marine de la hutte donnera l'impression d'un prolongement dans l'espace des visiteurs, explique-t-on. Les lynx bénéficieront aussi d'un meilleur environnement, avec l'écho qui sera coupé grâce au nouveau plafond. Grâce au nouveau plan, seule une vitre séparera les visiteurs des gros félins, mais ces derniers vivront dans la quiétude. La direction des installations promet aussi un habitat séparé pour les ratons laveurs et les porcs-épics, qui étaient à l'étroit, ne faisant pas nécessairement bon ménage. La forêt tropicale humide des Amériques ne ressemblera plus à celle d'aujourd'hui dans un an. Il y aura de nouveaux oiseaux pour cohabiter avec les ibis et des nouveaux poissons viendront enrichir les lieux. Une passerelle et une mezzanine offriront aux visiteurs une nouvelle vue sur l'ensemble de l'écosystème et les oiseaux au perché. Les paresseux seront plus faciles à repérer dans le haut des arbres, a ajouté la direction du biodôme. Quant au corridor entre le bassin des gros poissons de la forêt et la grotte des chauves-souris, il donnera l'impression de marcher dans une mangrove avec le soleil filtrant à travers le feuillage. Rien n'est coulé dans le béton, mais il se peut même qu'un grand fourmilier de l'Amérique du Sud, un tamanoir, vienne grossir la famille du biodôme qui compte 4500 animaux. Alors, les animaux déménagent, bon déménagement, puis pour voir l'actuel biodôme, il faut en profiter pendant le congé de Pâques qui s'en vient très bientôt. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Si vous nous écoutez en direct, les paractualités suivent. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée mercredi. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Et à la prochaine, Maurice. À bientôt à vous.